Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Se nourrir, s'hydrater, respirer, bouger et dormir. Des besoins fondamentaux qui sont autant de conditions pour notre santé, notre bien-être. Et parmi ces besoins, c'est certainement le sommeil qui motive le plus de plaintes comme de questions en consultation. Aller voir le médecin quand on dort mal, que l'endormissement est contrarié, quand les réveils se multiplient au cours de la nuit, voire carrément quand le jour se lève, on a l'impression de ne pas avoir fermé l'œil. Dans ces cas-là, une demande fréquente, c'est celle d'un résultat rapide, autrement dit, des médicaments pour dormir. Et avec nos invités, nous allons voir pourquoi cette solution n'est pas forcément ni la bonne ni la seule. Déjà, cerner les contours du sommeil réparateur, en comprendre les cycles, les stades, tout comme son utilité pour notre organisme et en particulier pour le cerveau. Quels sont nos besoins et qu'est-ce qui fait obstacle au sommeil? Comprendre le sommeil pour réapprendre à mieux dormir, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans Priorité Santé. Notre numéro WhatsApp pour poser vos questions, 33 7 61 18 46 41. Et à votre écoute, avec nous, dans les studios de RFI, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre de la personne âgée au centre hospitalier Émile Roux à Limeil-Brévannes, en région parisienne. Votre dernier ouvrage, docteur, est précisément consacré aux moyens de retrouver un sommeil de qualité sans médicaments. Il s'intitule « Bonne nuit, bonne santé ». Il est publié aux éditions du Rocher. Le regard d'un autre psychiatre, cette fois du Cameroun, on va donner la parole au docteur Christian Ayoum tout à l'heure, chef du service de santé mentale de l'hôpital La Quintini de Douala. Et puis en fin d'émission, la chronique de Bintou Chersek, nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, le sommeil, une nécessité pour tout le monde, mais des rythmes, des besoins différents. Est-ce qu'en consultation, quand on vient vous voir pour un trouble du sommeil, ça commence toujours par une forme d'explication pour redonner des repères, parce que la plupart d'entre nous, on a pas mal de choses à apprendre sur nos nuits, sur la façon dont on dort.
Absolument. D'abord, il faut se connaître. Est-ce que je suis courte dormeuse ou longue dormeuse? Un autre président de la République, il dit qu'il dort que 4 heures par nuit. Ben moi, j'ai besoin d'au moins 8 heures de sommeil. Et les gens, à tort, pensent être insomniaques. Par exemple, quand on dit « j'ai vu toutes les heures cette nuit », ben oui, on a vu toutes les heures, mais entre les heures, on a dormi. Donc on n'est pas nécessairement insomniaque. Donc le premier objectif de mon livre, c'est une guidance. Expliquer le fonctionnement du sommeil. Le train du sommeil rentre en gare toutes les heures et demie. Si on le loupe, eh bien, il va falloir attendre une heure et demie avant de se rendormir. On fait 5 à 6 cycles de sommeil par nuit.
Le problème, c'est peut-être que tout le monde voudrait dormir de la même manière.
Et voilà, absolument. Il n'y a pas de norme. Autant de personnes, autant de sommeil différents. Alors, quand on a vraiment des troubles du sommeil, eh bien, il faut pouvoir les objectiver. C'est pourquoi je donne des échelles de sommeil, des agendas de sommeil, une explication extrêmement pédagogique, pas à pas, pour comprendre ce qui reste très mystérieux tout de même. Parce que dans la nuit, c'est un peu une petite mort qui fait peur, lorsqu'on est enfant, mais aussi lorsqu'on est adulte ou très âgé. Il y a les rêves, il y a les cauchemars, il y a des troubles comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, les somnambules. Tout ça, je les explique et j'attends que le patient ne me demande pas uniquement « Docteur, marquez-moi un médicament ».
Alors c'est bien l'objet de cette émission, ce sommeil réparateur. On parle de la fatigue, on parle de la santé globale et puis du rôle du sommeil sur le cerveau. Comment est-ce que justement ce repos, il va intervenir sur notre façon de nous concentrer, de penser, de réfléchir et même de rêver?
Alors le sommeil est très important, à la fois, vous l'avez dit, pour le corps et pour l'esprit. On a besoin de repos, on a besoin de faire un blackout. Et on l'a pendant le sommeil profond. Mais pendant le sommeil profond, j'ai aussi une activité très bizarre qui s'appelle sommeil paradoxal. C'est-à-dire que tout mon corps est relaxé, mais je vais rêver comme si j'étais en éveil. Et on le voit avec des mouvements rapides des paupières, lorsqu'on enregistre le sommeil, ce que j'ai fait pendant des années. Et le sommeil est très important parce que notre cerveau va éliminer les déchets de protéines que nous avons accumulés pendant la journée, soit dans le sang, soit dans le liquide céphalo-rachidien. Il a besoin d'éliminer les tensions nerveuses. Mmh. Il a besoin, souvent dans nos rêves, on a des courtes poursuites, des bagarres. On va un peu régler ce qu'on n'a pas réussi à faire parce que le lobe frontal, qui est le lobe qui va modérer nos émotions fortes, quand on est conscient, eh bien là, lorsqu'on est inconscient, ne va pas jouer ce rôle.
Est-ce que d'une certaine manière, vous avez le sentiment qu'un rêve compliqué, ça nous promet une journée plus douce ?
Pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas forcément de lien linéaire. Quand le rêve est très compliqué, il va colorer de façon un peu grise nos journées.
On est mal au réveil.
On est mal au réveil. Alors qu'un rêve érotique, on est très bien au réveil et on a envie de le prolonger.
Alors, ce qui est important, docteur, c'est aussi d'écarter, vous avez cité tout à l'heure rapidement certaines pathologies ou affections qui peuvent être identifiées par rapport à ce sommeil. C'est l'objet d'une question d'un auditeur sur WhatsApp, Eladji du Maroc, qui dit et qui demande quelles pathologies peuvent entraîner l'insomnie.
Alors, toutes les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète, des pathologies comme neurologiques, comme les AVC, et puis les pathologies qui me concernent, c'est-à-dire l'anxiété, l'endormissement, la dépression, les troubles bipolaires. Toutes ces pathologies-là sont très pourvoyeuses de troubles du sommeil et parfois chroniques. Donc il faut le prendre très au sérieux.
Donc, ça veut dire que si on a certaines maladies, on en parle à son médecin par rapport à son rapport au sommeil.
Absolument.
Il y a aussi des bonnes conditions pour bien dormir. Et là, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus depuis pas mal d'années. C'est éviter notamment certaines choses avant de se mettre au lit.
Oui, éviter les écrans, par exemple. Mmh. Hein, chez nos jeunes, mais chez nous aussi. Hein, le scrolling qui va nous maintenir en éveil et en même temps, la lumière bleue des écrans va nous stimuler. Et là, il n'y aura plus de mélatonine. La mélatonine qu'on sécrète tous, c'est l'hormone de l'endormissement. Donc attention aux écrans, ne pas faire du sport trop tardivement, même s'il faut marcher en journée pour bien dormir, ne pas prendre d'excitants, de boissons excitantes, ne pas dîner trop tard, ne pas se disputer avec son conjoint, avec la personne avec laquelle nous travaillons, parce que notre cerveau va être en boucle. Hein, on va ressasser, on va dire, on peut faire le bilan de sa journée, mais pas indéfiniment. Et j'aurais dû faire ça, et je vais faire ça, etc. Là, il faut s'allumer un stop.
Hein. Attention aux ruminations.
Absolument.
Alors, on va prendre tout de suite un appel, on va justement parler de ce recours aux médicaments, ou plutôt comment l'éviter. Direction l'Est de la RDC.
RFI à Goma.
Et en ligne avec nous, c'est Franck. Vous êtes âgé de 38 ans. Franck, bonjour.
Bonjour. Bonjour la RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Chez
bonjour.
Vous, les troubles du sommeil, Franck, ça remonte à loin. À partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à mal dormir ?
Je commençais à mal dormir à l'âge de 18 ans. Donc, ça fait pratiquement 20 ans que je prends des médicaments pour dormir.
Ouais, ça veut dire une longue histoire avec les somnifères. Ça veut dire quoi exactement mal dormir quand vous dites « je dors mal » ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe ? À quoi ressemblent ces insomnies ?
En fait, mal dormir, pour moi, donc carrément, je ne trouve pas de sommeil si je n'ai pas pris des médicaments. C'est pas que je dors par phase, donc je dors carrément pas si j'en ai pas pris.
Et quand ça a commencé, quand vous étiez jeune, donc il y a 20 ans déjà, ces insomnies, il s'était passé quelque chose qui vous a perturbé ? Il y avait un gros problème dans votre vie ?
Ouais, j'avais perdu une amie qui était très chère. Et puis, j'ai commencé à faire des hallucinations, des mauvais rêves, des cauchemars. Et puis, j'ai été consulter un neuropsychiatre pour ça.
Oui.
Alors, ils m'ont d'abord prescrit des médicaments, ce que je peux dire, bien régulés, donc de la haute, de la nouvelle génération, donc qui étaient un peu réglementés, si je peux les dire comme ça.
Vous preniez des médicaments, pourquoi ? Pour des troubles anxieux, pour des choses comme ça ?
Oui, pour ça, pour des troubles anxieux et pour améliorer ma qualité de sommeil.
D'accord. Donc, vous aviez évidemment des problèmes de sommeil, on l'entend bien, mais derrière, il y avait quand même des troubles, une grande douleur, une grande détresse psychologique, hein, c'est ce qu'on entend également.
Ouais, il y en a. C'était vraiment très intense. Ouais. J'ai parlé à des gens que je voyais pas. J'étais en colère. Ouais. Et je dormais vraiment mal.
Aujourd'hui, ces symptômes, ils ont disparu? Ils sont partis?
Oui, l'anxiété a disparu, la colère a disparu, mais je dors toujours sous effet des médicaments.
Vous avez le sentiment de vous être complètement habitué, d'être quasiment en situation de dépendance par rapport à ces médicaments?
Franchement, je suis plus que dépendant, parce que quand j'en ai pas pris, je ne dors carrément pas.
Et y compris, est-ce que vous avez peur de manquer de médicaments quand vous arrivez au bout d'une boîte? Est-ce que même si vous dites, oh là là, c'est comme si en fait on vous retirait votre lit, votre boîte de cachet, vous dites, sans ça, je n'y arriverai pas, quoi qu'il arrive.
Oui, franchement, quoi que je fasse, je ne peux pas y arriver. Donc, je peux oublier à acheter mon café, je peux oublier à acheter mon sucre, carrément. Mon stock de médicaments est toujours au top, si je peux dire.
Non, on comprend. Franck, on écoute vos questions. Docteur Lefebvre-Desnouettes a bien suivi votre échange avec moi. Et maintenant, je vous en prie, posez vos questions.
Ok. En fait, la première question que je veux savoir, c'est comment est-ce que je peux arriver à dormir sans médicaments, parce que j'ai suivi tous les conseils qui puissent être améliorer mon lieu de repos, la propreté, la lumière, éviter les écrans, tout ça. J'ai fait peut-être me laver un peu avant de me coucher, manger un peu tôt, tout ça. J'ai suivi tout ça, mais j'arrive carrément pas à dormir sans médicaments. Alors, comment je peux m'en passer? Ça, c'est la première question.
Oui.
Et la seconde question, c'est, ça doit être évident parce que je vous dis que ça fait 20 ans que je prends des médicaments. Alors, quels sont les effets de ces somnifères sur ma santé à court ou à long terme? Quelles peuvent être les conséquences?
Docteur, allez-y.
Alors Franck, évidemment, vous avez sur un fond d'anxiété grave, voire de troubles psychiatriques, il y a 20 ans, légitimement, on vous a prescrit des anxiolytiques et des médicaments pour apaiser ce trouble.
C'était un besoin,
il faut le faire. Hein. Vous dites mieux que vous allez mieux, que la colère est tombée, que vous n'avez plus d'hallucinations, donc ça c'est nécessaire. Hein. Donc vous êtes dans un état chronique de dépendance, Caroline Paré l'a bien dit, à ces benzodiazépines, ces comprimés en âme, hein, ces anxiolytiques, parce que d'une insomnie d'anxiété, d'endormissement, vous êtes passé à une insomnie chronique. Et ça fait 20 ans que vous êtes dépendant de ces médicaments. Il y a deux choses avec les benzodiazépines, c'est l'accoutumance, être obligé d'augmenter la dose pour avoir le même effet, et la dépendance, ne pas pouvoir s'en passer. Alors Franck, c'est compliqué de vous dire de les arrêter aujourd'hui, c'est voire impossible. Il faut vraiment vous faire aider.
Il faut passer par des paliers ?
Oui, passer par des paliers, et puis en même temps, commencer une thérapie qui va être une thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire que la dépendance, elle est physique, somatique, mais aussi psychologique. Quand vous dites « si j'ai pas mes médicaments, je vais pas dormir », eh ben c'est un biais cognitif. C'est pas sûr. Il faut se mettre en condition. Alors, toutes les conditions, vous les avez bien appliquées, mais psychologiquement. Et la thérapeutique cognitivo-comportementale va vous aider à vous apaiser, à mettre un stop sur ces idées récurrentes. Je ne vais pas y arriver, et positiver.
Je vous écoute, docteur. On ne peut qu'approuver tout ce que vous dites. Le problème, peut-être que je l'ai dit en introduction, c'est Goma. Est-ce que, Franck, vous avez la possibilité à Goma aujourd'hui de prendre contact avec un spécialiste de la santé mentale, voire un psychologue? On sait que la situation est extrêmement compliquée sur place. Est-ce que c'est possible pour vous, d'un point de vue matériel? Est-ce qu'il y a un médecin psy à disposition? Et deuxièmement, financièrement, est-ce que c'est possible?
Bon, du point de vue, la possibilité de trouver un spécialiste, oui, mais du point de vue financier, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Alors Franck, moi je vous conseille de regarder sur Internet. Vous avez aujourd'hui beaucoup de sites en accès gratuit, voire des applications qui peuvent tout à fait vous aider. Et dans mon livre, j'explique tout toutes ces techniques qui sont facilement abordables que vous allez vous approprier. Vous êtes en demande de diminuer hein, ces médicaments, si j'ai bien compris, voire de vous en passer. Donc ça va marcher, Franck. Apprendre la respiration, apprendre la relaxation, hein, ça c'est formidable.
Baisser les doses progressivement aussi.
Très progressivement, hein, sur un mois, deux mois, trois mois, avec l'aide et le soutien d'un professionnel, d'un médecin, hein, ou voire d'un psychologue, hein, bien sûr. Hein. Et alors, quant aux effets délétères sur votre mémoire, sur votre corps à long terme, ben, je suis désolée de vous le dire, mais oui,
ça
a un effet sur la mémoire, parce que on a besoin de rêver, hein, tout le monde rêve même si on ne s'en souvient pas, et la prise de ces médicaments au long cours va vous priver de ce sommeil paradoxal, paradoxal parce que le corps est complètement amorphe, mais votre cerveau est en activité pour les rêves. Ça va avoir des troubles sur votre vigilance, votre attention, votre concentration, des troubles cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, etc. Donc, ce n'est pas des médicaments anodins, ce ne sont pas des bonbons, vous l'avez bien vu. Ça vous a aidé, bravo. Hein, mais maintenant, il faut arriver petit à petit à trouver la dose minimum efficace pour vous.
D'autant plus que Franck a d'ores et déjà la volonté, ce qui est un gros, gros...
C'est formidable.
Ouais, voilà. Très bonne journée à vous, Franck. Merci beaucoup pour cet appel. On va poursuivre notre échange, docteur, juste après ce titre de la grande, de l'immense Aretha Franklin. It Hurts Like Hell, dans Priorité Santé sur RFI.
Love was always supposed to be something wonderful to me, to watch it grow inside yourself, to feel your heart beside itself. Sometimes it hurts to love so bad when you know you've given. Sometimes it hurts to even ask. You do your best, but still it's much too sad.
Priorité santé, bien dormir, c'est essentiel pour la mémoire, les apprentissages, la consolidation de nos souvenirs, mais aussi pour d'autres raisons que les chercheurs commencent seulement à découvrir. Un extrait de votre livre « Bonne nuit, bonne santé » publié aux éditions du Rocher, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, notre invitée, toujours avec nous dans nos studios, psychiatre au centre hospitalier Émile Leroux à Limeil-Brévannes. C'est quoi précisément ces découvertes sur le sommeil qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années?
Alors, toute l'action, vous l'avez bien dit, sur la mémoire et ses liens avec la maladie d'Alzheimer, parce que notre cerveau a besoin d'éliminer ces déchets, dont la protéine anormale de la maladie d'Alzheimer, la bêta-amyloïde. Donc on est en train de bien voir, pour améliorer la qualité de sommeil de ces personnes âgées, sans médicaments, qui eux-mêmes donnent des troubles de la mémoire. Et puis ça retentit sur les maladies cardiovasculaires, ça retentit sur l'hypertension artérielle, le diabète. Hein, notre corps a vraiment besoin de ce sommeil et de tous ces stades, de ce sommeil lent, profond, récupérateur, pour le corps et pour l'esprit. Et puis on a découvert à la fois l'hormone du sommeil, la mélatonine, et une autre voie qui s'appelle l'orexine, qui est un neuromédiateur qui nous maintient en éveil. Donc aujourd'hui, on a développé un nouveau produit pour dormir, pour diminuer ce maintien en éveil. Et la mélatonine, elle, de son côté, on va la donner, parce qu'elle ne donne pas d'accoutumance, pour augmenter, évidemment, l'hormone du sommeil.
Alors, on va prendre maintenant d'autres auditeurs en ligne. On part pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Harvey. Harvey, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 30 ans. En préparant l'émission, vous avez confié ressentir un certain stress lié justement à vos troubles du sommeil, ou l'inverse plutôt. Est-ce que vous avez identifié l'origine de ce stress?
Bon, l'origine de ce stress a été identifiée quand je suis allé consulter un psychiatre.
Oui.
Parce que, en fait, dans le passé, pendant le Covid, j'avais attrapé le rhume. Donc, cela m'a commencé à créer des palpitations, parce que moi, je me disais que ça doit être cette maladie, donc je commençais à stresser. Et donc, du coup, j'avais le cœur qui battait vraiment vite. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait des examens et rien n'a été révélé. Et donc, le médecin m'avait juste donné quelques tranquillisants. Quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé un peu de faire table rasa, j'ai essayé un peu d'oublier un peu ce qui s'est passé.
Oui.
Et c'est vrai que les palpitations ont disparu, mais depuis lors, je n'arrive pas à dormir.
On vous a donné un anxiolytique et aujourd'hui encore, vous prenez des médicaments ou pas?
Oui, mais parce que, en fait, depuis 2020, je suis passé de médecin en médecin. Là, présentement, je suis suivi par un psychiatre,
Ouais.
qui a dû me mettre, qui m'a dû me prescrire le Temesta.
Ouais.
Donc, ça devait se faire en deux phases. C'est-à-dire que la première phase, je devais prendre un comprimé avant le coucher, donc pendant 2 semaines. Après, je devais passer à un demi-comprimé avant le sommeil. Mais je me suis rendu compte que quand je diminue la quantité, le sommeil, je n'arrive pas à trouver.
Du coup, vous avez repris le comprimé complet?
Oui, j'ai appelé le médecin, il m'a dit de reprendre le comprimé complet et on va voir pour le prochain rendez-vous qu'est-ce qu'il faut faire.
Et vous vous sentez comment, Harvey, quand vous prenez ce médicament pour dormir?
Bon, quand je prends ce médicament pour dormir, en tout cas, j'arrive quand même à dormir, mais j'ai toujours une lourdeur au niveau de la tête. J'ai l'impression que la tête est lourde et quand je ne prends pas le comprimé, j'ai l'impression d'être malade. En fait, j'ai la sensation de ne pas me sentir à l'aise, en fait.
Ça veut dire quoi? Vous sentez comme une oppression à l'intérieur? Vous avez l'impression d'être complètement comprimé?
Comprimé, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, je n'ai pas la volonté de faire quelque chose. Je veux rester là, je vais vraiment ne pas penser à autre chose. C'est cette impression que j'ai.
Le psychiatre, il vous a parlé d'un diagnostic, il a mis un nom de maladie sur votre état général ou pas vraiment?
Bon. À la base, il a parlé de l'anxiété.
Oui.
Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais parce que quand même, ça dure.
Ça dure depuis longtemps.
Oui, ça fait quand même 4 ans.
Ouais.
Et donc là, je cherche vraiment des méthodes pour vraiment me sortir de cette bulle, de ne plus prendre les médicaments. Et je ne sais pas s'il y a des méthodes pour cela.
Donc, il y a question pour vous passer des médicaments. Est-ce que vous avez aussi une question sur éventuellement certains effets secondaires de ces somnifères?
Oui, naturellement, mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question avec le premier intervenant.
Avec le premier intervenant, sur justement la lourdeur, etc., quand on prend les médicaments. Problème de concentration. Docteur,
ça m'arrive souvent. Oui.
Ça vous arrive souvent. Docteur Lefebvre-Desnouettes, on entend là aussi un terrain d'anxiété chez cet auditeur du Congo-Brazza, symptôme de lassitude aussi qu'il exprime. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Déjà, c'est très bien que vous soyez allé consulter. Et c'est très bien que vous fassiez une alliance thérapeutique avec votre psychiatre, que vous puissiez l'appeler quand... C'est à vous de savoir, hein, quand vous allez, à quel rythme vous allez pouvoir vous passer de ces médicaments. Mais à mon avis, pour l'instant, c'est trop tôt. Même s'il y a des effets secondaires que vous décrivez très bien. C'est trop tôt parce que vous êtes anxieux. Comme nous, en France, figurez-vous que les jeunes, vous êtes très jeunes, ont augmenté de 31% les troubles anxieux à la suite de la Covid.
C'est important ce que vous nous dites, docteur, parce que bien sûr, ce livre, c'est « Comment dormir sans médicaments », mais attention.
Oui.
Quand on a un problème de santé mentale ou un problème psychiatrique...
Il faut le prendre au sérieux.
Il faut le prendre au sérieux.
Absolument. Hein. Et vous décrivez très bien vos symptômes. Et en même temps, vous ruminez. Je ne vais pas pouvoir m'endormir. Et si je prends que la demi-dose, ça ne va pas aller. Or, je vous ai bien expliqué, quand on prend ce type de médicament, oui, on est apaisé, mais on n'a que du sommeil de mauvaise qualité. Les patients me disent « je dors comme une souche, je ne me souviens de rien ». Et c'est ce qu'ils veulent pour ne plus souffrir, ne plus être anxieux. Donc, vous faire aider et à votre rythme. Votre psychiatre a parfaitement raison de vous proposer un sevrage du Temesta, mais à votre rythme. Pour vous, ça sera peut-être un jour sur deux pendant une semaine, voire pendant un mois, puis un jour sur trois. Moi, je le fais vraiment parfois à la goutte près avec mes patients et je leur demande de commencer à travailler sur leur respiration, sur le ressenti de leur corps, sur le yoga, sur toutes ces techniques non médicamenteuses qui vont faire que vos sensations, parce que vous avez dit « j'ai la sensation de », elles sont personnelles, vos sensations, vous allez pouvoir les maîtriser et retrouver une bonne qualité de vie puisque vous êtes jeune.
J'ai justement une question, Hervé, avant de conclure. Est-ce que vous faites de l'activité physique ?
Oui, j'ai l'habitude de jouer au football.
Ouais, ça vous fait du bien, ça ? Ça vous fait du bien ?
Ouais. Ça me fait du bien.
Ouais, je pense qu'il faut aussi insister sur ce...
Parce qu'on se secrète ses propres endorphines, qui nous calment au niveau de l'anxiété aussi.
Un grand merci, Hervé. On a un autre témoignage. Message que nous a adressé une auditrice du Sénégal. Sur le répondeur, c'est Awa. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Awa. J'ai 30 ans et j'habite à Dakar. En fait, mon compagnon, il prend des médicaments pour dormir. Ça fait plus de 10 ans. Depuis qu'il était en classe de terminale, il n'arrivait plus à dormir normalement. Et depuis lors, il a pris toutes sortes de médicaments. Maintenant, depuis plus de 5 à 6 ans, il prend de l'Alpraz, 0,5 mg. Mais je constate, quand il ne prend pas les médicaments, il est comme un psychopathe. C'est comme s'il devient dingue. Il reste à sa place, il ne fait rien, comme s'il devient fou. Maintenant, je voulais savoir à long terme, qu'est-ce qui pourrait l'arriver ? Merci.
Alors là, docteur Lefebvre-Desnouettes, on entend dans le témoignage d'Awa, dont la voix a été modifiée pour des raisons d'anonymat, un de ses proches sous anxiolytique. Elle voit vraiment un effet très important sur son humeur, avec même parfois pour elle un ressenti de choses assez inquiétantes. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Ben c'est dramatique parce qu'elle est complètement dépendante. Elle utilise un mot très fort, elle ressemble à un junkie.
Donc ça, c'est son proche qui est dans cet
état-là
et ça l'inquiète.
Je comprends que ça l'inquiète parce qu'on est dans un tel état de dépendance qu'on tuerait père et mère pour avoir son comprimé d'alprazolam. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est ces conséquences à long terme qui ne sont pas bonnes. Et pour l'éviter, il faut se faire aider. Il faut vraiment se faire aider. C'est pas le one shot, je prends ça et puis hop.
C'est non. Ça, c'est qu'après, une fois qu'il y a eu en consultation la délivrance du médicament, voilà. Il faut qu'il y ait un suivi.
Absolument.
On ne peut pas le prendre de soi-même
non.
X années.
Non, absolument pas. Sur le long cours, absolument pas. D'ailleurs, les recommandations, c'est pas plus en cas de... Donc c'était chronique, pas plus de 3 mois.
Oui, mais le problème, c'est en fonction du pays où on est. Bien sûr, en France, on ne peut pas avoir la délivrance de ces médicaments sans ordonnance. On sait qu'en Afrique subsaharienne, on peut se les procurer un petit peu de façon informelle. Et dans ce cas-là, on peut perpétuer une ordonnance, on va dire d'autant plus que ça n'est pas remboursé. Donc, que ce soit prescrit ou non, il n'y a pas de différence, et ça ne pousse pas à les consulter.
Bien sûr, et ça c'est dramatique, hein. C'est comme une drogue. Hein. Donc sous le manteau, on se procure ça, et ça a des effets tellement délétères à long cours sur l'attention, sur la concentration, sur les troubles du comportement psychiatrique, hein, où là on est vraiment dans un état, on est accro, quoi, dans un état de dépendance, que ça vaut le coup franchement de se faire aider, et de lui-même, que son compagnon puisse marcher dans la journée, ne pas prendre d'excitants, se laver la tête, puisse avoir une activité sportive, quelle qu'elle soit, relationnelle, et puis travailler sur sa respiration, la relaxation, s'initier au yoga, ça c'est gratuit, ça coûte rien, vous n'avez pas besoin de consulter un médecin.
Donc la recommandation à Awa, c'est vraiment qu'elle, dans un premier temps, peut-être aille reconsulter,
oui,
pour que le médecin psychiatre puisse expliquer tout ça à son compagnon, et parler évidemment des risques de cette prise d'anxiolytique au long cours. Docteur, le regard de l'un de vos confrères maintenant, puisqu'on part tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Douala.
En ligne avec nous, docteur Christian Ayoum, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin psychiatre, chef de service du CESAM, le service de santé mentale de l'hôpital La Quintigny de Douala. Je précise que cet entretien a été enregistré. Quand dans votre service, il y a une plainte liée au sommeil, est-ce que les patients viennent vous voir directement ou ils sont d'abord allés voir un autre soignant?
En général, déjà pour parler de la question du sommeil, c'est la toute première qui vient au CESAM en fait. Si on élimine la question de l'agressivité, de l'agitation, mais très souvent les gens ont commencé par un soignant à domicile, pour dire comme ça. C'est très souvent avec des solutions locales qu'on essaye. Parfois aussi, ils sont passés par le commerçant qui vend les médicaments de la rue, ou sinon ils ont vu le médecin généraliste avant d'arriver, parce que vous savez, ça fait pas bonne étiquette d'être venu voir le docteur Ayoum, voir le psychiatre en première ligne, quoi.
À cause de la stigmatisation de la santé mentale qui existe,
effectivement,
qui existe toujours. Alors, vous nous dites des médicaments de la rue, ça veut dire que souvent les personnes qui dorment mal viennent directement vous voir, docteur Ayoum, en disant « donnez-moi des cachets, je veux dormir », c'est ça?
Oui, c'est ça souvent, parce que vous savez, le cachet a aussi office de talisman un peu. C'est-à-dire qu'on arrive avec quelque chose qu'on peut, on vient, on ressort de la consultation avec quelque chose qui résout le problème. Mais quand je parle des médicaments de la rue, c'est que bien avant de nous voir, ils sont déjà allés chercher le petit cachet qui va faire dormir au coin de la rue du quartier, quoi. Donc, quand ils viennent, nous, on a beau dire, allez prendre telle ou telle mesure, on est plutôt en train de leur perdre un peu de temps. Donc, souvent, c'est le cachet qu'on veut.
C'est le cachet. Alors, j'imagine que de votre côté, vous, psychiatre, c'est compliqué d'expliquer aux personnes, ben non, vous n'aurez pas d'ordonnance, mais par contre, je vais vous réapprendre, en quelque sorte, à dormir et à comprendre comment se reposer.
Effectivement, parce que très souvent, quand on vient chez le docteur, ce qu'on attend, c'est de sortir avec le papier qui va dire qu'est-ce qu'on peut prendre et tout résoudre. Et puis, avec cette question du siècle de la vitesse et avec tout ce temps que les gens n'ont plus à perdre, ben, les gens, ils veulent la solution immédiate. Et effectivement, c'est compliqué de pouvoir expliquer tout ça.
Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de ces fameux cachets de la rue, il y a eu d'autres pratiques pas forcément conseillées qui sont observées par des patients? On peut imaginer prendre, par exemple, des substances pour dormir.
Oui, mais écoutez, je ne veux pas revenir sur toute l'épidémie, moi je l'appelle comme ça, de la prise du tramadol et toutes les autres benzodiazépines qui se baladent dans les rues. Du benzodiazépine, c'est des médicaments comme le diazépam, pour ne citer que ça. Mais je vais citer au Cameroun en particulier la place de l'alcool dans la recherche du sommeil. Parfois parce qu'on est consciemment à la recherche du sommeil, mais parfois aussi parce qu'on a l'impression qu'en le prenant, ça détend et que derrière, on peut trouver le sommeil de manière un peu secondaire, quoi. Donc très souvent, c'est soit l'alcool, soit quand on a sa petite décoction de grand-mère, qui pour certaines sont d'ailleurs conseillées, mais qu'on va mettre en première ligne avant d'arriver chez le psy, en fait.
Avec notre invité, on a déjà décrit certaines mesures qu'on dit hygiéno-diététiques pour mieux dormir, la sieste, les rythmes du sommeil, qualité de la literie aussi, ça peut compter. Est-ce que vous aussi, vous avez des recours ou des personnes qui prennent des médicaments traditionnels ou de la phytothérapie pour dormir?
Oui, c'est l'une des premières lignes de réaction. Plus on s'approche des milieux ruraux, plus on en a, quoi. En ville, c'est un peu moins présent, mais Mais une des choses qui est le plus utilisée ici ces dernières années, c'est la question des feuilles de corossol. C'est un arbre qui pousse dans la cour souvent et dont on peut faire une infusion que la personne va consommer, sans compter toutes ces questions autour de thés de citronnelle et consorts. Donc, ça présente bien des avantages. C'est des questions liées à la phytothérapie. Et puis, il y a quelques intervenants qui arrivent, qui sont des naturopathes et tout, qui proposent des solutions dont je n'ai pas une grande expérience, mais qui ont l'air de marcher bien aussi.
Qui ont l'air de marcher. Et maintenant, du côté des explications, est-ce qu'il y a aussi des patients qui viennent et qui disent « Je ne comprends pas, je suis vraiment très fatiguée, pourtant je dors mal ».
Oui, alors le plus difficile pour le psychiatre, c'est d'avoir le patient qui veut le cachet pour dormir, mais qui ne veut pas être fatigué le lendemain. Parce que il faut dire que les cachets pour dormir, quand ils agissent mal, quand on les positionne mal, ben, ils vont déborder le réveil et puis ils vont continuer d'agir dans la journée du lendemain. Donc, c'est ça le plus difficile. Mais les gens viennent souvent en disant, alors, l'anecdote qui est la plus fréquente chez le psychiatre ici, c'est celle de ce monsieur qui arrive et qui vous dit, je ne dors pas de la nuit, docteur, trouvez-moi des cachets pour dormir. Et de l'épouse qui vous dit à côté, non, docteur, il dort. Il dort, il dort, il dort. Et même souvent, c'est objet d'altercation véritable. Et nous sommes obligés d'expliquer que non, il est possible de dormir sans le ressentir et que ce n'est pas forcément bien dormir que de dormir sans le ressentir parce que ce n'est pas un sommeil réparateur et ça permet aussi de réparer le couple parce que souvent la dame, alors on ne va pas les accuser, est un peu jalouse de celui qui dort, qu'elle voit dormir pendant qu'elle ne dort pas déjà elle. En gros, c'est le problème qu'on trouve le plus ici en termes d'incompréhension autour du sommeil. Mais maintenant, il faut aussi dire que on a vu des gens qui disent être des petits dormeurs, mais qui, en fait, à vrai dire, ne supportent pas le manque de sommeil. Je pense que certains se justifient comme ça pour essayer d'échapper un peu à l'arbitrage du conjoint qui insiste pour qu'il fasse au moins 6 à 8 heures de sommeil toutes les nuits.
Est-ce que vous avez aussi des patients qui, finalement, arrivent mal à dormir parce qu'ils ont des rêves ou des cauchemars et qu'ils ont peur parce qu'effectivement, ils peuvent avoir des visions assez inquiétantes pendant la nuit, mais aussi parce qu'il y a des interprétations mystiques par rapport à ces cauchemars.
Oui, mais écoutez, l'interprétation mystique qui me revient là d'emblée quand vous parlez, c'est ce qui s'appelle ici les couches de nuit. On va les appeler simplement les rêves érotiques. Mm-hmm. Donc, c'est toutes ces dames-là qui disent, alors ça se dit ici comme ça, qui ont des maris de nuit. Ça veut dire que quand elles vont dormir, ben, il y a un monsieur qui se présente dans les rêves et qui veut bien avoir des relations intimes avec elles. Et ça, ça les gêne énormément. Donc, du coup, elles ont peur d'aller au sommeil parce que ça peut les poursuivre et elles sont souvent à se protéger avec tel ou tel outil remis par le pasteur ou par le tradit praticien pour se protéger. Mais on voit bien là aussi qu'il y a une anxiété d'endormissement qui peut être la cause d'un décalage dans les heures de sommeil ou d'un sommeil superficiel avec une hypervigilance dans le sommeil.
Voilà. Est-ce que vous arrivez à traiter ça en échangeant, en discutant?
Oui, mais il faut déjà aller avec la personne, discuter de ce que c'est qu'un rêve érotique, revenir un peu sur ce que ça peut représenter comme tentative de réparation par le cerveau d'une situation mal vécue, normaliser la chose.
Pour retirer par exemple la culpabilité qui peut être liée à la religion, parce que certaines femmes peuvent avoir le sentiment, entre guillemets, de tromper symboliquement leur époux.
C'est ça, le sentiment de tromper ou d'attirer la mauvaise personne. Donc effectivement, oui, il faut aller déculpabiliser, mais aussi aller expliquer qu'en se relâchant davantage, les choses viendront. Je pense qu'il faut travailler surtout dans l'idée qu'on se fait de ce qu'on vit. C'est surtout à ce niveau, c'est au niveau de la croyance, au niveau de la pensée, de la fonction de la pensée qu'on doit travailler.
Un grand merci à vous, Dr Christian Hioum, pour votre éclairage. Excellente journée à vous. Docteur Lefebvre-Desnoyers, on se retrouve pour la conclusion de notre échange. Ces conseils pour mieux dormir, c'est vrai qu'en France, on consomme moins de somnifères, mais il faut dire qu'on était parti de très très haut. Hein.
On était au top 10. Hein.
Voilà.
On a un peu régressé, mais attendez, on achète quand même 117 millions de boîtes de somnifères par an. Ça ne va pas.
Oui, ça ne va pas du tout. Vous faites l'apologie de la sieste dans votre livre.
Oui, formidable, vers 14h, 20 minutes à 30 minutes, se sentir décontracte, faire la nuit, hein, soit avec un masque, soit dans une pièce dédiée pour ça. De plus en plus dans les entreprises, ça se fait. Et puis se réveiller tranquillement et mettre un réveil si on a peur de faire tout un train du sommeil, c'est-à-dire une heure et demie, et puis s'étirer. Et on repart comme en l'an 40.
Tout à l'heure, vous avez dit à plusieurs reprises yoga, relaxation, ça veut dire que, entre guillemets, ces méthodes douces, ça peut vraiment fonctionner.
Ah oui, c'est scientifiquement prouvé maintenant. Tout à fait. Donc, il faut se les approprier en priorité. On a parlé de la phytothérapie. thérapie aussi, des huiles essentielles, de la luminothérapie si on est déprimé le matin. Toutes ces petites techniques non médicamenteuses peuvent tout à fait vous aider. Si vous avez besoin d'un somnifère pour une période donnée, un deuil, passer un cap difficile dans la vie, oui, mais sur une durée courte et en le diminuant pour ne pas devenir dépendant.
Tout à l'heure, en première partie d'émission, hein, sera ma dernière question, un auditeur disait qu'au départ, il y avait eu justement un deuil douloureux. Est-ce que quand on a pris des médicaments pendant 15 ans, on va malgré tout revenir sur cet événement déclencheur? Ça peut jouer ou c'est trop tard?
Ah non, ça peut jouer et on peut tout à fait, avec l'aide d'une psychologue ou d'un psychiatre, revenir sur cet événement déclenchant, l'hypnose, hein, le rêve éveillé, c'est une très bonne technique où on va essayer de soulever cette chape de plomb et avoir une autre allure de vie et se sentir mieux une fois qu'on aura fait une alliance thérapeutique avec toute la vie qu'on a accumulée, ses douleurs, mais aussi ses joies.
C'est pour ça qu'on va aussi voir des psys, pas seulement le généraliste, si nécessaire, quand on a
absolument,
un problème de sommeil.
Absolument, parce qu'ils auront beaucoup plus de temps à vous consacrer.
Un grand merci à vous, docteur Lefebvre-Desnoitains, pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions du Rocher, « Bonne nuit, bonne santé ». Dans quelques instants, on va parler nutrition. Ce sera juste après Sike avec « In My Bed », justement, sur RFI.
I love to see you come. So many options, but I'm the chosen one. Ice on my neck, I'm the frozen one. Girl, love me, so you love me. You are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie? Number one. Everything God did give you, you got to show off. Make it for no loss. I go be your downfall driver, drive you crazy, drive you crazy. Girl, I know what you like. Let's not put off the lights so I can see you clearly. Mwah, baby, give it to me. You are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie?
Bien manger, bien se porter dans Priorité Santé. On en parle maintenant avec vous, Pintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Diététicienne, nutritionniste à Dakar et aujourd'hui, vous nous proposez de nous éclairer sur le pain. Le pain, un aliment qui est consommé par 80% de la population mondiale.
Tout à fait. Le pain est un aliment de base qui est prisé partout dans le monde, y compris en Afrique, bien sûr. Par exemple, d'après la Fédération nationale des boulangers, les Sénégalais consomment au moins 8 millions de baguettes par jour.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Il est important qu'on en parle parce qu'il y a quand même plusieurs types de pain et il faut savoir ce qu'on achète et pourquoi. Et puis, il y a eu quand même des innovations dans la fabrication du pain en Afrique ces dernières années.
Pourtant, ce pain, on le dit, c'est un aliment de base, mais il n'a pas forcément très bonne réputation, par exemple. Beaucoup pensent que le pain, ça fait grossir. Alors, est-ce que c'est vrai? Pourquoi ce pain est-il considéré pourtant comme un aliment de base s'il a autant de défauts?
Alors, dans sa déclinaison la plus simple, le pain, c'est la cuisson au four, parfois même à la poêle, d'une pâte qui est composée de farine panifiable de blé, d'eau, de sel et de levure. Et pourquoi considère-t-on que le pain est un aliment de base? Eh bien, parce que c'est un féculent et que les féculents constituent une famille d'aliments indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Le blé est bien sûr une céréale qui est composée majoritairement de sucre et ce sucre, c'est la principale source d'énergie de notre organisme. C'est ce qui permet ce sucre-là, notamment au cerveau et au système nerveux, de fonctionner normalement. Donc le pain a tout à fait sa place dans le cadre d'une alimentation équilibrée. On peut en manger tous les jours dans des portions raisonnables, sans grossir.
Donc ça veut dire qu'il a un petit peu une mauvaise réputation qui est un petit peu exagérée.
Absolument, ce sont des idées reçues.
Alors vous allez nous présenter maintenant 7 types de pain, en commençant par la baguette très classique.
Très bien. Alors, il y a 2 types de baguettes. Il y a la baguette tradition, qui est la baguette sans additifs et sans surgélation de la pâte. Et puis, il y a le pain courant, la baguette où il peut y avoir jusqu'à 4 additifs, notamment des conservateurs.
Il y a le pain au levain aussi. Comment est-ce qu'il est fabriqué?
Alors, ce pain-là, il est fabriqué sans ajout de levure. En fait, il est levé naturellement grâce à la fermentation de la pâte.
D'autres pains, par exemple, pain complet, pain de son, pain intégral.
Alors, tous les 3 sont des pains fabriqués à partir de la farine blanche à laquelle on ajoute du son, c'est-à-dire le germe et l'enveloppe de la céréale, ce qui enrichit le pain en fibres et en vitamine B.
Et quand on parle du pain de campagne, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors, la particularité du pain de campagne, c'est dans le choix de la farine et dans le choix également de fermentation et de pétrissage qui lui donne un goût acidulé et puis un temps de conservation beaucoup plus long que le pain classique.
Alors, pour finir, vous allez nous parler du pain arabe et des pains spéciaux.
Oui, alors le pain arabe, qui est le pain avec lequel on prépare le shawarma, par exemple, c'est du pain plat sans levain ou levure. Et les pains spéciaux, ce sont par exemple les pains de mie, pains de chasse, les pains briochés, qui sont finalement des pâtisseries parce qu'il y a quand même des ajouts de gras, de sucre et de produits laitiers dans ces pains-là. Il existe aussi des pains aux olives, aux noix, aux céréales. Et récemment, il est apparu le pain sans gluten, qui est destiné à la base à ceux qui sont allergiques à cette protéine qui est le gluten, et c'est du pain qui est fabriqué sans farine de blé.
Alors, du point de vue nutritionnel, est-ce qu'il y a parmi ces types de pains certains qui sont, on va dire, meilleurs que les autres pour la santé ?
Alors, les pains les plus intéressants du point de vue nutritionnel sont les pains complets, les pains de son ou intégral, grâce à leur haute teneur en fibres. Donc ces pains-là sont bien meilleurs pour la digestion, pour la régulation même du taux de sucre dans le sang chez les diabétiques, pour la régulation du cholestérol dans le sang. Mais attention, il faut faire attention aux pains complets industriels qui souvent contiennent du sucre et du gras ajouté. Donc il faut toujours lire la liste des ingrédients quand on achète ce type de pain. Alors le pain au levain et le pain arabe sont beaucoup plus digestes pour ces personnes qui sont ballonnées par le pain classique, notamment la baguette. Alors les pains qu'il faut par contre limiter ou manger qu'occasionnellement sont les pains spéciaux que j'ai cités, qui s'apparentent plus à des pâtisseries, comme je l'ai dit. D'ailleurs, beaucoup de parents préparent le petit déjeuner et le goûter de leurs enfants avec du pain de mie, et je déconseille ça totalement.
Alors, quelles sont ces innovations, Bintou Chirsek, autour du pain dont vous avez parlé tout à l'heure ?
Alors, ces dernières années, dans plusieurs pays d'Afrique, y compris au Sénégal ici, un effort très louable est fait pour favoriser nos céréales locales, ce qui permettra quand même éventuellement de réduire les importations de blé. Donc aujourd'hui, on peut trouver dans certaines boulangeries du pain au maïs, du pain de mil, du pain au manioc, du pain à la patate douce, au niébé, qui est une légumineuse, et puis du pain au fonio également. C'est important de noter quand même que tous ces pains sont toujours à base de blé, mais avec une incorporation de farine locale qui peut atteindre les 20%.
Un grand merci Bintou Chirsek, tous ces conseils, on peut les réentendre sur le podcast de Priorité Santé à toute heure, notamment sur l'application RFI Pure Radio. Et c'est fini pour aujourd'hui, Priorité Santé. Merci à toute l'équipe qui prépare et réalise l'émission. Ophélie Lassen, Louise Caledec, Victor Hull, Didier Chérouse, à la réalisation. Demain, dans Priorité Santé, derrière le micro, Laurence Garcia, ses invités pour parler des hépatites, prévention et transmission, diagnostic, prise en charge des différentes atteintes virales responsables de l'inflammation du foie. À retrouver, bien sûr, dès 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.